Les Canuts, troisième partie, chapitre 17. Les trois fugitifs touchaient aux dernières maisons de champagne, où le son clair d'une enclume résonnait au milieu des vagues rumeurs du village. Le vent du midi, chassant les nuages chargés de neige, avait ramené une température plus douce. Au tiède rayon du soleil d'avril, la terre se ranimait. Les primes verts s'épanouissaient au coin des buissons. Les bois couronnant les coteaux s'enveloppaient de molles verdures. Partout, dans la campagne, secouant le long repos de l'hiver, bêtes et gens étaient à l'œuvre. Ici, un paysan, le sac de toile à la ceinture, allant à pas mesurés d'un geste circulaire, épandait la semence sur la terre brune. Là, un laboureur, conduisant sa charrue, excitait ses bœufs de la voie, de l'aiguillon. Et, sous le soc qui creusait le sol et retournait les gazons, les sillons s'alignaient à perte de vue. De loin en loin, on entendait les appels des femmes apportant la soupe à leurs hommes, des chants de bergers sur les hauteurs, des rires d'enfants derrière les haies fleuries. Et, fuyant au fond des combes fraîches, le coucou répétait ses deux notes profondes, la chanson du printemps. Marius avait le cœur serré. Ce rajeunissement des choses, ces parfums retrouvés, cette poésie naïve et grande, l'impressionnait. Il songeait qu'il avait gâté sa vie. Le bonheur était à sa portée. Il n'avait pas su, pas voulu, le voir. Où l'avait conduit l'orgueil? Maintenant, il était réduit à fuir comme un malfaiteur. Il venait de laisser Saint-Didier à leur gauche et apercevait sur un sommet la tour du télégraphe aérien avec ses grands bras de bois. Eugène tirait la jambe. À chaque groupe de maisons, « Y sommes-nous bientôt ?» demandait-il. « Et encore quelques enjambées, » disait Marius. « Courage ! En arrivant, tu te reposeras. » Ils traversèrent des prairies coupées de ruisseaux, des vergers pleins de pommiers en fleurs, des taillis verdissants. À un détour, Limoneste leur apparut, dominant de son piédestal la vallée de la Zergue. Ils commencèrent à gravir la montée. Sur le bord de la route, parmi les jardins et les vignes, s'élevaient des maisons blanches, entourées de haies vives et d'aubépines en fleurs. Assises sur les mamelons environnants, accrochées au flanc des coteaux, des fermes, des habitations bourgeoises, se montraient dans la verdure. Tout autour, c'étaient de petits vallons trempés de rosée. Et, à perte de vue, le paysage s'étendait, baigné de lumière blonde. Ils prirent, à gauche, un chemin de traverse qui conduisait à la ferme. Comme ils approchaient, Marius poussa une exclamation. « Le fenil a été incendié !» dit-il. « Si c'était... » Il se souvint que des bandes armées étaient venues à Limoneste. Dans sa hâte de savoir, il pressa le pas. Devant la porte de la ferme, Jean Barou causait avec un monsieur dont Marius ne pouvait voir la figure. Peut-être le propriétaire. Quand ils furent à 10 pas de la maison, l'inconnu se retourna. « Mon oncle ! » s'écria Marius. Puisqu'il le trouvait là, il s'était donc réconcilié avec son frère. Il était reconnaissant de ce que son neveu avait fait pour lui. Le sourire aux lèvres, Marius s'approchait. Monsieur Victor Jacquemin lui tendit la main, tristement. « Ah, mon ami, » murmura-t-il d'une voix entrecoupée de sanglots, « on dit qu'un malheur n'arrive jamais seul. Rien n'est plus vrai. Mon pauvre garçon, tu ne reverras plus ton père. » À ces mots, Marius pâlit horriblement. Son père n'était plus? Était-il possible? Il y avait si peu de jours qu'il l'avait vu plein de santé. Monsieur Jacquemin poursuivit. avec déménagement. Il dit la triste vérité, raconta l'incendie, l'alarme donnée à la population de Limonest, le dernier acte de démence du malheureux. On n'avait pu retirer des décombres que des restes informes. L'enterrement avait eu lieu le lendemain. Tous les habitants avaient suivi le convoi. Marius, qui s'était d'abord contenu, éclata en sanglots.
« Oh, mon pauvre père ! »
s'écria-t-il.
« Mon pauvre père ! Mort si misérablement sans que j'aie pu le revoir !»
Se laissant tomber sur le banc, sans contrainte, il exhala sa douleur. Que n'avait-il été frappé par une balle, comme tant d'autres ? Il serait tombé en plein enthousiasme. Il lui fallait donc tous les chagrins à la fois, l'amertume de la défaite, la nécessité de l'exil, et pour comble de malheur, la mort de son pauvre père. Et quelle mort, grand Dieu ! À côté de lui, Louise pleurait en silence. Doucement, il lui prit la main. Puisqu'il lui restait encore l'amour de cet enfant, il n'était pas absolument maudit. Monsieur Jacquemin s'était assis auprès de lui et lui parlait affectueusement. Lui aussi était arrivé trop tard. Trop tard pour se réconcilier avec son pauvre aîné. Il se reprochait sa conduite envers lui, si bon, si droit, si loyal, si fier, trop fier. Cette fierté avait prolongé leur séparation, mais ce n'était que l'exagération d'une qualité. Marius écoutait son oncle faire l'éloge de son père. Il sentait diminuer peu à peu la distance qui les séparait. Longuement, M. Jacquemin raconta son enfance auprès de son frère, leur jeunesse, leur dure vie, leur lutte. Puis, baissant la voix, il lui fit comprendre à quelles influences il avait cédé, lorsqu'il avait eu la cruauté de refuser au pauvre homme la misérable somme d'argent qu'il lui avait demandée. Il passa la main sur son front, comme s'il eût voulu chasser un remords, et, se levant, « Voyons, et toi, mon pauvre garçon, reprit-il brusquement, que vas-tu faire ? Tu ne peux pas rester ici, on exercera des poursuites rigoureuses contre ceux qui ont pris part à l'insurrection. L'autorité est résolue à faire de sévères exemples, puisque la clémence qu'elle avait montrée après les journées de novembre n'a pas désarmé les haines. Des mandats d'arrêt vont être lancés dans toutes les directions. Toi, tu t'es trop compromis pour que tu puisses rester dans le pays sans être inquiété. Tu serais dénoncé infailliblement. » À la dérobée, Marius regarda Louise. Elle était ferme et résignée. « Je le comprends, mon oncle, » répondit-il. « Si je restais seul au monde, je me soumettrais aux lois de mon pays. Mais si je ne puis épargner au nom que vous portez la honte d'une condamnation, je lui épargnerai du moins celle de figurer sur le registre d'une prison. Ce soir même, je partirai. Je gagnerai la frontière suisse. Oui, pars au plus tôt. À Bâle, à Zurich, le tissage a pris une grande importance. Un bon ouvrier comme toi peut y gagner largement sa vie. Tu travailleras, ce que tu n'aurais jamais dû cesser de faire. Le travail, vois-tu, mon ami, c'est toujours à cela qu'il faut revenir. On cherchera longtemps la solution du problème social, et je crains bien qu'on n'en trouve jamais d'autre. Tu m'écriras, je t'aiderai. Je veux faire pour toi ce que je ne puis plus faire pour ton père. Et puis, quand le moment viendra, tu rentreras en France. » Les heures s'écoulèrent. Il n'y avait pas de temps à perdre. D'un moment à l'autre, l'ordre pouvait être lancé à toutes les brigades du département d'arrêter les individus venus de Lyon. Autour de la grande table, le souper finissait. Personne n'avait fait honneur au fricot de la mère Barou. Eugène lui-même, renfonçant ses larmes, faisait un effort pour avaler chaque morceau. Assis entre son oncle et Louise, seul Marius, par intervalle, disait quelques mots. Sa voix était changée. Elle avait une douceur infinie.
Puis la grande cuisine assombrie retombait dans un silence de mort, interrompu par le sabotement de la mère Barou qui rangeait le ménage. Par la petite fenêtre ouverte, celle où, l'été dernier, Louise avait cueilli des raisins à la treille, on apercevait, au couchant, une bande violacée qui s'éteignait dans la nuit. Du verger, les parfums des cerisiers en fleurs, montant plus subtils, pénétraient dans la cuisine avec la fraîcheur du soir. Bientôt, au clocher de Limoneste, l'Angélus égrena ses notes claires. Marius se leva. Retrouvant toute son énergie, il prépara son léger bagage, prit son bâton. « Allons, » dit-il, « il faut partir. » Se levant à son tour, M. Jacquemin s'approcha de lui et, à demi-voix, « Tu n'as pas d'argent, mon ami, » lui dit-il. « Laisse-moi t'en remettre un peu. »« Mais mon oncle, » balbutia Marius, « je n'ai besoin de rien. »« Ah, tu es bien le fils de ton père. Ne me fais pas cette peine, vois-tu. Il ne t'est pas possible de partir sans argent. Et là-bas, avant que tu aies trouvé du travail, il faudra vivre. Voyons, tu ne me refuseras pas un prêt. Tu m'as sauvé la vie. Je ne prétends pas me reconnaître envers toi avec quelques pièces d'or. Tu me rendras cette petite somme lorsque tu reviendras. Mais accepte ce petit service. C'est bien le moins que tu puisses recevoir de moi. » Marius ne résista plus. « Eh bien, mon oncle, j'accepte votre offre dans ces conditions. Et dès que je pourrai m'acquitter de ma dette... » « c'est bon, » interrompit M. Jacquemin, élevant la voix. « Ma dette à moi est bien lourde, mais j'espère pouvoir l'acquitter un jour. » Louise et Eugène se tenaient debout tristement dans l'embrasure de la porte. Jean Barou et sa femme, discrètement, restaient dans l'ombre. Marius sortit le premier. On l'accompagnait jusqu'à la grande route. Marchant à côté de lui, le front incliné, Louise se taisait, de peur de laisser voir son émotion. Seul Marius parlait avec calme. Il se dirigerait, à pied, vers Genève. Afin de ne pas éveiller les soupçons, il coucherait dans les hameaux et les fermes isolées, et se ferait passer pour un ouvrier faisant son tour de France. Quand ils eurent atteint la grande route, il serra la main à Barou et à sa femme, embrassa son oncle, puis Eugène. « Tiens, » fit Barou, écoutant, « voilà le premier rossignol que j'entends cette année. » Arrivé à Louise, Marius, troublé, eut une hésitation. Puis, ardemment, ils se jetèrent dans les bras l'un de l'autre. Parmi les trilles du rossignol, on entendit un sanglot. Il se redressa et, retenant les mains de la jeune fille, « M'attendrez-vous, Louise ? » demanda-t-il. « Oh, vous le savez bien, je suis à vous pour la vie. Je me charge de la corbeille, » reprit M. Jacquemin. Alors, sans pouvoir ajouter une parole, Marius les salua tous de la main et s'éloigna rapidement. Plusieurs fois, il se retourna pour les voir encore. Les deux enfants, montés sur la balme de la route, agitaient leurs mouchoirs. Sur le ciel pâle, leurs silhouettes se profilaient. Au loin, les trilles du rossignol, lui arrivant toujours, lui mettaient au cœur un regret et un espoir. À un tournant, il les perdit de vue et n'entendit plus rien.